vous l'avez bien connu. Vous l'avez bien connu, une émission sans contrainte ni personne, vous l'avez bien connu, proposée par Ambroise Perrin. Épisode numéro 36. Du plus loin de l'oubli, un fantôme aujourd'hui. Chers amis, bonjour. Alors c'est quelqu'un d'archi connu qui va nous faire voyager aux quatre coins du monde et pourtant tout va se passer ici, dans le quartier, un jour de marché, le marché du samedi matin, vous savez, boulevard de la Marne à Strasbourg, un peu plus bigarré que celui de la place de Bordeaux. Bon, ça, ce sera à la fin de l'épisode. Alors, les quatre coins du monde, c'est vraiment un cliché bizarre pour un globe. Et dire que c'est loin, que c'est partout, très très loin, on comprend alors l'idée. Mais ce que je voudrais vous raconter dans cet épisode, ce lointain, il n'est pas seulement géographique. Le lointain, c'est aussi dans les gens, les sentiments, les relations humaines, ce lointain qui fait si peur quand on vit en vase clos, en famille, ce culte sacerdotal d'une dévotion parents-enfants, quelque chose de dogmatique qui fait que lorsque l'on réussit à mettre le pied dehors, comme dehors de son petit village alsacien ou dehors de son quartier à Strasbourg, c'est tout de suite les îles Galapagos, un temple au Cambodge ou le sommet d'une tour à Chicago. On voit cela au cinéma, mais cela reflète une réalité, même si les films sont des fictions et non pas strictement des documentaires. Le cow-boy et l'Indien qui fuient la vallée perdue, le soldat qui fuit son régiment et déserte en temps de guerre, la jeune fille que l'on va marier sans son gré, un orthodoxe à New York et qui fuit à Berlin, la ville de tous les destins. Et l'on se retrouve donc loin de son petit coin alsacien dans un autre coin du monde. Alors cette personne que nous connaissons bien à Strasbourg, et donc vous l'avez bien connue, est une journaliste qui a fait l'école du QEJ, c'était rue Schiller, le centre universitaire d'enseignement du journalisme avec Alphonse Hirjude comme directeur. Alors moi j'ai fait cette école, c'est comme la fac et c'est là que je l'ai connue, même si j'ai passé mon diplôme quelques années avant elle. Alors elle a fait 10 fois le tour du monde. Elle a filmé, photographié et écrit sur tous les pays. Elle a eu des prix prestigieux, le Pulitzer, le prix Albert Londres, le prix de la liberté de la presse Chimpumpu pour un reportage sur le ministère de la détente au Zaïre. Eh oui, ça existe. Sport et détente. C'est relax, non ? En France, je verrais bien un ministère du glandage et de la sieste. Alors, j'y connais rien parce que je suis toujours trop occupé, mais je serais prêt à y faire un stage. Tu fais quoi comme étude ? Ah ben, je fais un master 2 en alanguissement, option bien-être et relaxation. Eh bien, notre héroïne n'était pas le genre... pas son genre, hein, Proust. Plutôt... Super speed, 24 heures sur 24. Chez elle, enfant, tout sentait le rance. La même maison depuis 100 ans dans la famille. La commode de la grand-mère et la table cadeau de la tante Alice avant-guerre. Et quand elle était devenue veuve, elle avait emménagé dans la famille et puis il y avait des cadres avec des photos de mariage et la date et le nom des gens écrits au dos de la photo, tout ça dans sa chambre, qu'en plus, elle partageait avec sa sœur. Alors, dans les espaces vides, entre les cadres, elles avaient collé les photos des 4 Beatles de l'album blanc, l'original. Sacrilège, on ne fait pas de trous avec des punaises dans des photos sacrées. Mais bon, elle préférait vraiment les Beatles à tous les autres groupes de pop. Alors, la frangine, quand elle est partie, elle l'a perdue de vue. Et ses parents, pareil. Au début, un petit coup de fil, mais le téléphone était encore rare. Et puis une fois ou deux, un passage à Noël, ou bien l'été. Et ça se passait vraiment mal. Il n'avait rien à se dire. Elle s'ennuyait. Elle détestait faire semblant de s'intéresser à toute cette médiocrité qu'elle avait fui quand elle avait commencé à aller aux quatre coins du monde. Alors, je reviendrai l'an prochain. Ou peut-être pas, je ne sais pas, je voyage beaucoup. Elle a été correspondante d'Antenne 2 pendant 10 ans en Amérique latine, puis en Asie du Sud-Est. Alors sa mère pensait la reconnaître dans des reportages sur des lieux de guerre. Sa fille devait avoir changé de nom, peut-être qu'elle s'était mariée, ou bien elle prenait des pseudonymes. En fait, parfois, elle s'arrêtait quelques années et elle vivait une autre vie, dans des grandes villes. Kyoto, Mexico, Pondichéry, au gré de ses amours et de ses chéris. Elle a écrit des romans pour la série Harlequin. Elle a fait une retraite de 3 mois, qui a duré 3 ans, au Tibet. Elle a donné des cours d'anglais à des petits Vietnamiens dont les papas ou les grands-pères étaient américains. Elle a habité, par masochisme certainement, dans le même immeuble qu'un ancien nazi au Paraguay. Et elle s'est mise à détester son enfance, à détester son adolescence. Elle ne détestait pas ses parents, non. Il lui était devenu indifférent. Elle n'a jamais su quand son père est mort, après le suicide de sa sœur. Elle l'a appris par hasard, en étant obligée de faire des papiers, une histoire de passeport, et la dame de la mairie au téléphone, bon, elle l'avait reconnue avec son nom, elle lui a dit « Ah, on ne vous voit plus à la télé, c'est à cause de votre sœur ?» Et bien sûr, elle n'a pas compris pourquoi, mais cela ne l'intéressait pas, mais quand même. C'était le début d'Internet, et c'est comme cela qu'elle a lu le drame dans les archives des dernières nouvelles d'Alsace. Mais bon, la mort, c'est la vie. Et des morts, elle en avait vu dans sa vie, dans des guerres, mais aussi de banales routines de la vie. Elle s'étonnait à peine de son indifférence. Parfois, elle s'arrêtait de tout faire, complètement. Elle prenait une petite chambre dans un hôtel, dans un village. Elle descendait à heure fixe pour les repas et elle restait sur son lit à lire la littérature classique française, américaine, espagnole. Elle restait dans sa chambre 2-3 semaines, sans programme, sans attache, sans contact avec personne. Son roman préféré, c'était « L'éducation sentimentale de Flaubert ». Il voyagea. Il connut la mélancolie des paquebots, l'effroi réveil sous la tente, l'étourdissement des paysages et des ruines, l'amertume des sympathies interrompues. Il revint. Il fréquenta le monde et il eut d'autres amours encore. Mais le souvenir continuel du premier les lui rendait insipides. Et puis, la véhémence du désir, la fleur même de la sensation était perdue. Ses ambitions d'esprit avaient également diminué. Des années passèrent et il supportait le désœuvrement de son intelligence et l'inertie de son cœur. Bien sûr, elle avait lu Proust en entier. Alors, quand on dit en entier, comme disent les snobs, ça fait un peu chic, quoi. Mais elle, c'était pour de vrai. Elle avait lu tous les Rougon-Macquart, dans l'ordre. Et c'est l'œuvre qu'elle préférait, Claude Lantier, comme Cézanne. Mais Zola, lui, l'avait pendu à la fin du roman. Et puis, tout Balzac, 120 romans, la comédie humaine, tout Modiano, tout Goethe, ce qui est impossible, Tolstoï, Cervantes, Dostoïevski, Dante, Faulkner, London, Steinbeck, Mayakovsky, Carver, tout dans le désordre. Mais en fait, le hasard faisait qu'elle tombait sur un écrivain, et alors elle le lisait en entier. Elle disait que c'était comme si elle entrait au monastère. Elle disait aussi qu'elle ne pouvait lire que des auteurs morts, des écrivains dont on savait que l'œuvre était terminée à défaut d'être complète. Elle a cherché les écrivains alsaciens, mais elle a fui tout ce qui ressemblait à autre chose qu'à des romans, surtout pas lire d'essais, ni d'analyses politiques, ni des livres de revendications identitaires. Non, 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 que des romans, que de la littérature. C'est une période où elle n'a rien écrit. Avant, elle avait fait le nègre pour gagner de l'argent, des biographies de personnalités. Maintenant, elle prenait des amants, de riches amants, qu'elle quittait vite avec beaucoup d'argent, et elle s'enfermait dans des chambres de bonne, comme Jean Genet, bon, c'est ce qu'on raconte, même si ce n'est pas vrai. Dans une petite ville de 1000 habitants, au sud de l'Argentine, ou à Novosibirsk, ou dans l'Arkansas, ou même dans le Larzac, elle était contente d'être personne, d'être l'inconnue de la chambre du haut, la dame aimable, mais pas trop, juste ce qu'il faut. Parfois, elle descendait une bouteille de whisky par nuit, du bon, du whisky japonais. Et puis, d'autres années, elle n'a pas touché à une goutte d'alcool, sobre, un peu par hasard ou alors par manque de goût. Un soir, en Finlande, la bouteille la plus chère d'un chic restaurant était un Gewürztraminer. Alors, elle a demandé à voir la bouteille. C'était un Kleebourg, donc une bouteille du Bas-Rhin. C'était bien. Qu'est-ce qu'elle faisait là, cette bouteille à 600 euros, qu'on aurait dit un Petrus de trop. Alors le monsieur lui a demandé, on la prend, c'est une bonne bouteille. Elle a dit non, surtout pas. Ce vin me fait pleurer. Elle a dit ça sans y penser. Oui, mais c'était de la nostalgie pour l'Alsace. Mais non, elle s'est moquée d'elle-même. Rien à foutre de l'Alsace. Alors, elle a pris la bière la moins chère sur la carte, 6 euros. Et l'amoureux, il l'a échappé belle. Elle avait eu un chef d'orchestre comme mari. Elle s'était mariée 2 ou 3 fois. Alors, un mari lui avait dit un jour « Tu es une femme libre ». Alors, ce n'était pas une question, mais plutôt de la jalousie, c'est-à-dire plutôt de l'envie. Être une femme libérée, c'est pas si facile. Bon, elle n'a pas chanté, mais son chef d'orchestre s'était mis dans l'idée de la mettre à la musique, comme il disait. Il était russe, et elle ne parlait pas encore le russe, et ça se passait au Japon. Bon, il se parlait en anglais, et il lui a dit « Oui, à 30 ans, tu peux apprendre le violon ». Moi, j'ai commencé à 5 ans, mais il n'est jamais trop tard. Tu ne joueras pas pour un public, mais tu joueras pour toi. Pourquoi pas, s'est-elle dit. Et à l'époque, elle était encore une journaliste qui courait le monde. Les fameux quatre coins du monde. Et comme toujours, c'est devenu complètement frénétique. Elle jouait sur son violon 8 heures par jour. Elle travaillait. En 6 mois, elle avait ingurgité tout le solfège, une méthode allemande. Même son chef de mari lui disait de freiner. Non, non, elle s'était entichée d'Isaïe, le compositeur belge, Eugène, et de Fritz Kreisler, le viennois. Et bien sûr, Bach et Vivaldi, et même les caprices. Elle voulait enchaîner les 24 délices de Paganini, comme le norvégien Ole Bull. Un soir, pour se moquer d'elle, son petit mari chéri de grand chef lui a demandé de jouer le 24e devant des amis venus dîner. Peut-être, parce qu'il était fier d'elle. Alors, le 24e caprice, c'est le plus difficile. Elle a pris son violon, elle a clignoté des yeux et elle a joué le tambourin chinois, solo, comme a cappella, sans l'accompagnement au piano. C'était vraiment bien, hein, Fritz Kreisler. Elle savait que c'était bien. Les amis étaient bouche bée. Ils étaient gênés parce qu'en fait, elle n'avait pas obéi au chef. Elle n'avait pas joué ce qu'il avait demandé. Elle n'a rien dit. Il y avait une pièce montée au dessert. Le lendemain, elle lui a dit à son Paganini, « Fritz, je pars. » « Comment ça, tu pars ?» Et Igor n'a pas compris que c'était pour de bon. Elle est partie, elle a pris un billet d'avion, sans son violon, bye bye le Japon. Elle avait des économies quelque part, peut-être au Gabon. Alors je raconte cette anecdote parce qu'elle me l'a racontée. Et bien sûr, je me disais, quand elle racontait, « T'es sûr que c'est vrai ?» Mais ça, c'est une autre histoire. Alors, vous qui l'avez bien connu, on dirait presque que c'était il y a un siècle maintenant. En fait, quelques dizaines d'années. Vous savez bien que la vie est bien plus compliquée que ces histoires d'amour et du 24 en la mineur, quasi presto. Elle avait en tête un secret. Jouer le vol du bourdon de Rimsky-Korsakov en moins d'une minute, comme David Garrett, qu'elle avait interviewé, ou Adam Tambitz, qui joue encore plus rapide. Moins d'une minute, le vol du bourdon. Elle m'a dit qu'elle n'a plus jamais fait de musique. On ne joue pas un jour, on se sent engourdi. Le lendemain, on ne joue pas deux jours, le prof s'en aperçoit. On ne joue pas trois jours, c'est le public qui le remarque. Et puis aussi de Garcia Marquez, elle l'avait lui aussi interviewé en l'accompagnant à Aracataca. C'était son lieu de naissance, en Colombie. Le romancier aimait dire, d'un air coquin, « On a tous trois vies. Une vie privée, avec sa famille, une vie publique, son boulot, et une vie secrète. » Elle l'avait bien aimé, malgré sa moustache et ses mensonges à Macondo. Mais qu'est-ce qu'il avait fait ainsi fuir l'Alsace, son village, son quartier, sa famille? Elle m'a répondu que c'était le jour où la petite rivière dans le village de ses grands-parents, où le jour où la petite rivière a été canalisée. On l'a mise dans des tuyaux pour traverser la Grand-Rue, qui était devenue rue du Général de Gaulle. Elle m'a dit que les fantômes avaient été enfermés dans des canalisations et qu'elle avait décidé, ce jour-là, de suivre ses propres fantômes. Et pourquoi elle n'est jamais revenue ? On a même donné son nom, si célèbre, grâce à ses films et à ses bouquins. On a donné son nom à la médiathèque du village. Et elle n'est même pas venue à l'inauguration. Elle était où ce jour-là? À Ulaanbaatar, dans un McDonald's. Bon, d'accord. Mais souvent, il faut être mort pour que l'on donne votre nom à une salle ou à un bâtiment ou à une rue. Oh, le Pulitzer, ça mérite d'être mort, non? Le privilège des morts, c'est de ne plus mourir. Et puis, absent, on parle beaucoup plus des mystères de votre personne, non? Peu lui importait ceux qui avaient de la fortune, du succès, de hautes situations. Elle avait aussi décroché le prix Albert Londres et avait été faite chevalier des arts et lettres pour des textes qui racontaient des moments insignifiants, un paysan en faillite, une vendeuse de coca, un boat people de 6 ans, un mourant du sida, un guérilleros de la paix, un livre sur les pesticides dans l'agriculture en Argentine, un autre sur les photos les plus signifiantes de l'actualité mondiale du siècle passé. Et aujourd'hui, elle est à Strasbourg. Tout a changé. Et tout est comme avant. Cela fait exactement 40 ans qu'elle n'a plus mis les pieds au marché de la Marne, un samedi matin à 10 heures. Et elle observe les clients, ces jeunes de 20 ans qui n'ont pas d'âge, déjà vieux, les dames fanées, très coquettes, les ploucs moustachus aux t-shirts rebondis et aux pieds nus dans des sandales en plastique, des poussettes avec des chiards coincés dans les légumes bio du maraîcher qui raconte que cela vient de son jardin, des femmes voilées, où c'est certain, il n'y a pas le bon Dieu dedans. D'épaisses sorcières noires qui font comme si de rien n'était. Et puis, ils sont nombreux ceux qui ont la religion du tatouage. On met un pull de traviole pour laisser apparaître un dragon sur son épaule. Il y a deux gars à vélo, dans la foule, et un zozo avec une énorme radio sur l'épaule qui assomme avec... Yaraha, Didi et Méli Méli en boucle. Et puis, il y a cette très vieille dame qui ne semble pas indigne. Elle ressemble plutôt à un automate. Elle marche sur sa ligne. She walks the line. La journaliste lui dit « Bonjour ». Elle répond poliment. Elle est polie. Elle n'aime pas trop parler, mais oui, elle répond. Elle n'a pas le temps, mais ça fait déjà 5 minutes qu'elle bavarde. La vieille dame n'a rien à raconter, mais la journaliste sait comment on dit juste 2 mots pour s'arrêter. Il faut savoir écouter. La vieille dame, toute courbée, elle a eu 80 ans cette année. Eh bien oui, vous êtes bien aimable. Ben, je vous raconte un peu. Non, elle ne se plaint pas. Elle vit seule depuis si longtemps. Mais tout va bien. Elle a assez. Elle fait avec. Elle n'a pas d'amis, mais elle connaît des gens. Parfois, elle reconnaît une voisine dans la salle d'attente du docteur. Ah, j'ai acheté des asperges, mais je ne voulais pas 1 kilo, c'est trop. Alors il m'a dit, ben, je vous donne la moitié. Mais il m'a donné plus. Et donnez-moi 5 euros, c'est bon. Et puis le fleuriste aussi. Ah, j'y retourne à 13h, quand ça ferme. Pour 1 euro, il me donne un bouquet. Ben, de toute façon, demain, ce sera fané. Et puis, oui, j'ai eu comme une autre mon histoire d'amour. Un jeune homme d'apparence cossue qui s'imaginait que je le devinais. Il a fini par épouser une vieille femme très riche. Moi, j'avais 18 ans. Elle se met à parler comme dans un conte. Ce fut un chagrin désordonné. Alors, trop boire fut la seule chose qui comptait. J'ai toujours été indifférente à l'avenir et j'ai vécu le reste de ma vie, plus de 60 ans, détachée de tout. Elle fait une pause et murmure quelques mots comme une conclusion qui la surprend elle-même. Son visage s'est transformé une fraction de seconde. Elle est resplendissante, les yeux doucement lointains, les lèvres entrouvertes sur de toutes petites et jolies dents, le nez retroussé comme pour être gentil et les cheveux soudain dorés. Elle est une autre, enfin... Elle est elle-même, et donc elle murmure « Depuis plus de 60 ans, je suis détachée de tout. Je crois que c'est un acte de volonté suprême. » Et la vieillarde observe cette grande dame qu'elle vient de rencontrer, si aimable, si douce, et qui pose des questions du regard sans même prononcer une phrase. Dans la foule du marché, elles sont seules, la journaliste et la vieille dame. « J'ai voulu tout oublier, » reprend-elle. « J'ai une fin de vie apaisée. » Et elle dresse une liste qui est un chapelet de rituels. Le coiffeur, le mardi, une fois par mois, à 11h. Le bus numéro 2 pour aller en ville, à la braderie. Le rognon de porc à la boucherie d'Auchan, dégraissé, exprès pour elle. Le pain très très cuit. La boulangette, elle ne la digère pas si ce n'est pas bien cuit. Et ce qu'elle regrette, c'est la barbe à papa au mesti quand elle était enfant au village, et les rondelles de saucisse de la bouchère qui passaient dans son Citroën tube gris. Elle va maintenant à la chorale à l'église Saint-Maurice avec le nouveau curé, même si c'est en travaux. Et elle est même allée au mariage du fils de sa voisine, à qui pourtant elle ne parle jamais, mais elle avait été invitée. La journaliste au détour du monde écoute sans plus entendre. Elle rêve de prendre sa retraite ici, là, dans ce quartier, de s'arrêter, de se reposer quelque part, et pourquoi pas ici, dans cette petite ville, Strasbourg, où tout semble si calme, si tendre. Il suffirait qu'elle pose la main sur l'épaule de la très vieille dame qui sourit. La journaliste se retourne brusquement et sans dire au revoir, elle quitte en courant la vieille dame qui ne l'a pas reconnue. C'était sa maman. C'était l'épisode numéro 36 de « Vous l'avez bien connu » du plus loin de l'oubli, un fantôme aujourd'hui. Vous l'avez bien connu, une émission tous les mardis à 11h30 et le dimanche à midi à la technique Lucas Bringout. Et mon nom, je ne veux pas qu'on m'oublie, Ambroise Perrin.